La parole des contes avec Anne Wang.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue à La parole des contes, à cette émission qui continue encore et toujours, et merci pour tous vos commentaires qui font chaud au cœur sur les podcasts. Et donc, cette fois-ci, je nous invite à aller voyager dans l'Orient avec un des contes fables de Kalila et Dimna. Et qui a été traduit ou écrit en plusieurs langues, aussi bien en arabe, persan et sanskrit. Et c'est un conte un petit peu long, une fable plutôt. C'est un peu pour faire réfléchir sur l'amitié et la trahison, les conflits et les intrigues, la jalousie, sous ces sortes de choses qui nous animent. Et bien sûr, il n'y a pas d'humain dans l'aventure. Ce sont juste deux animaux, enfin trois, en comptant la femme du crocodile. Et avant de venir à la radio, oui, je voulais quand même partager avec vous cette anecdote. Avant de venir à la radio, j'ai rencontré une dame parce que je parlais toute seule dans la rue. Elle s'est retournée en croyant que je lui parlais. Alors, je me suis un peu excusée. Elle m'a dit non, c'est pas grave. Et puis, ça lui a fait penser à un moment un peu tragique dans nos vies, à chacun, chacune, au moment du Covid. Et donc, sa fille, qui vivait déjà toute seule dans un appartement, elle n'était pas très bien dans cette solitude imposée à chacun. Et son tonton psychiatre lui a téléphoné pour lui demander quand même de ses nouvelles, prendre de ses nouvelles, lui demander comment ça allait dans cette vie-là. Et elle-même s'est dit, elle a osé se confier à son tonton en lui disant, je parle toute seule. Je parle toute seule à mes plantes et mon chat. Mais c'est pas grave. Par contre, s'ils te répondent, tu me rappelles. Et voilà. Maintenant, passons à Brèche-Dents et Plat-Museau. Il s'agit du roi des singes. Et ici, le roi des singes s'appelle Plat-Museau. Mais le pauvre Plat-Museau, qui était donc le chef des singes dans sa tribu, commença à grisonner. Et ses sens s'émoussèrent, son allure se ralentit. L'amour-propre lui masquait ce qu'il ne voulait pas voir. Cela dit, ce que l'on se cache à soi-même peut être parfaitement clair pour les autres. C'est ainsi qu'un jour, à l'issue d'un féroce combat, Plat-Museau fut vaincu par un jeune mâle qui le chassa au plus profond de la forêt. Le vieux singe, qui des années durant était resté le chef incontesté d'une troupe de femelles et de jeunes, remportant victoire sur les imprudents qui osaient le défier, se retrouva soudain seul et abandonné. Plus question à présent de tambouriner allègrement sur son torse fièrement posté sur une hauteur. Il n'avait aucune intention de se retirer, mais il le fallut bien. S'efforçant de faire contre mauvaise fortune bon cœur, il alla s'installer dans un vieux figuier sur les berges du Maipura, un grand fleuve, non loin du lieu où celui-ci déverse ses eaux fangeuses dans la mer. Là-haut, dans son arbre, il lécha ses blessures et se retrouva bientôt tel qu'en lui-même, roi des lieux qu'il avait sous les yeux. Il adorait les figues, et son arbre lui en fournissait en abondance. Une telle abondance, en fait, que pour s'amuser, il en lançait de temps à autre quelques-unes dans le fleuve. Floc, floc. Ce jeu le distrayait et l'aidait à passer le temps, qui lui semblait beaucoup plus long maintenant, qu'il vivait dans la solitude, sans contact, agréable ou non, avec quiconque et sans rien à faire. Mais Plamuso n'était pas seul. Sous l'arbre d'où il jouait à lance-figue, caché sous l'eau du Meipura, allait et venait, brèche-dent, le crocodile. Celui-ci n'avait jamais mangé de figue, mais voyant à quel point le singe y prenait plaisir, il décida d'en goûter une, tombée non loin de lui. Elle lui parut étonnamment bonne, rafraîchissante, et qui plus est d'une saveur étrangement douce, qui le changeait fort agréablement du régime implacablement hyperprotéiné en usage dans son espèce. Brèche-dent était un tendre, tout crocodile qu'il était. Ce géant des fleuves était de mœurs douces et paisibles, même s'il est vrai qu'il tuait pour assurer ses repas. C'est ainsi que le singe et le crocodile, solitaires lui aussi, ne tardèrent pas à établir des relations, quoiqu'avec une certaine prudence. « Hello !» lança brèche-dent le crocodile un beau matin dans un mélodieux glou-glou-glou, faisant sursauter Plamuso dans son arbre. Le vieux singe regarda tout autour de lui avant de repérer une paire d'yeux et des naseaux qui dépassaient hors de l'eau. Brèche-dent leva la tête, juste assez pour dévoiler dans un sourire peu attrayant une longue rangée de dents irrégulières. « Oh, n'aie pas peur !» dit-il. « Je ne peux pas grimper aux arbres comme toi. Je voudrais juste savoir comment tu appelles ces choses que tu n'arrêtes pas de jeter dans l'eau. C'est bon, je trouve. « Des figues !» répondit Plamuso. « On appelle ça des figues. T'en as mangé ? Oh, j'en reviens pas. Je croyais que tu ne mangeais que des poissons et autres animaux. » « Oui, oui, en fait, c'est vrai. Mais il n'y a pas que les chats et les singes qui soient curieux. Il y a aussi des crocodiles qui ont envie de s'informer. Alors j'ai goûté une de ces figues, parce que je t'avais vu la jeter. Quand elle est tombée dans l'eau, je me suis dit, pourquoi pas ? Je l'ai happée et suis vite allée me cacher dans les roseaux. » Pour ne pas t'inquiéter. Tu as beau dire, tu m'inquiètes, poursuivit Plamuso le singe du haut de son figuier. Je ne sais que penser de toi, un mangeur de chair fraîche qui fait la causette avec un mangeur de fruits. Il n'y a rien à penser, répondit le crocodile. Dans l'hypothèse improbable où tu tomberais dans le fleuve, je ne te ferais aucun mal. À quoi bon ? Ce qui m'intéresse, ce sont les figues, pas à toi. Et sans toi, plus de figues, tu vois ?
Allez, cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords de l'île, ils sont partis, n'en parlons plus.
Cette première conversation marqua le début d'une amitié qui grandit avec le temps. Au commencement, leurs entretiens portaient sur les figues, le temps qu'il fait, le fleuve. Puis vinrent les épouses, les enfants, les petits-enfants. ils discutaient avec la plus grande franchise de leur vie, de leurs conditions, de leurs problèmes. Plamuso parlait de sa jeunesse, de ses erreurs, de ses victoires et de la défaite finale qui l'avait obligé à chercher refuge dans le figuier. Il lui arrivait même de réfléchir à la question de savoir si tous les mâles dominants étaient inévitablement amenés à se voir détrônés. Quant à Brèche-Dent, il évoquait, entre autres choses, sa femme et son île, toutes proches, ainsi que l'ascendant qui avait fait de lui le roi de cette partie du fleuve. Il parlait des poissons, des serpents, des tortues, des chèvres naines, chauves-souris et autres bestioles, y compris à l'occasion des petits singes qui faisaient partie de son alimentation. La franchise dont le crocodile faisait preuve concernant ses habitudes carnivores contribua à l'établissement de rapports de confiance qui n'empêchaient pas Plamuso de rester prudemment dans son arbre. C'était sans ambiguïté. Chacun occupait un habitat distinct et s'y tenait dans un esprit de respectueuse coexistence. Souvent, ils bavardaient des heures entières, le crocodile allongé dans la vase et Plamuso confortablement installé dans son arbre. Au bout de quelques semaines, Brèche-Dent remarqua d'un air détaché « Je te trouve aussi sympa que tes figues, tu sais, vieille branche !» Sur quoi le singe mis en joie fit pleuvoir sur lui une avalanche de figues que le crocodile tout sourire faisait d'un habile coup de queue sauter une à une dans sa vaste gueule. Le fait est qu'avec le temps, le singe et le crocodile s'entendaient de mieux en mieux. Leur goût commun pour les figues consolidait leur amitié et embellissait les heures passées ensemble. Malheureusement, si certaines lunes de miel perdent doucement leur lustre au contact de l'ordinaire quotidien, d'autres trouvent une issue plus dramatique. Celle-ci prit fin lorsque la jalousie, ce monstre aux yeux verts, eut établi son empire sur Bouton d'Or, l'épouse de Brèche-Dent, le crocodile. Les choses ne se gâtèrent pas immédiatement. Les deux compères continuèrent un temps de voguer ensemble dans une béate insouciance. Ils habitaient un espace extradimensionnel où toute réalité s'engloutissait sans laisser de traces. Que la chair de singe fût nourriture de crocodile était un fait d'une évidence telle qu'il en perdait tout intérêt au regard de l'abondance de figues dont disposait Brèche-Dent. La confiance allait de pair avec le goût des figues. Que pouvait-il leur manquer ? Madame Bouton d'Or ne remarqua pas tout de suite le changement intervenu chez son époux. Elle connaissait l'existence de Plamuso, bien sûr, car Brèche-Dent lui avait parlé de son nouvel ami et revenait parfois au domicile conjugal, les joues gonflées de figues, hommage, disait-il, de Plamuso. Mais elle ne s'attardait pas trop sur cette nouvelle amitié. En effet, il ne pouvait supporter les conversations de Bouton d'Or et de ses innombrables amis qui, lors de leurs fréquentes réunions, passaient leur temps à commenter dans le plus grand détail les aléas des relations nouées par chaque parent, ami et connaissance, et pas seulement entre eux personnellement, mais avec la tribu tout entière et son réseau de nourrissons, enfants, petits-enfants, amis de cœur, amants, parents, anciens amis, amants délaissés, ex-époux, défunts. Bref, tous ceux entre qui existaient des liens quelconques. Connaissant la susceptibilité de son épouse, Brèche-Dent évitait d'insister sur le détail des moments passés avec Plamuso. Mais ce furent justement ses réticences qui aiguisèrent ses soupçons. Elle savait bien que les mâles ont besoin d'amitié masculine et qu'il leur est relativement difficile de contracter de nouveaux liens et de les entretenir. Ils accordent tant d'importance à leurs performances respectives, ils veulent toujours être le meilleur en tout, être celui qui plonge le plus profond, celui qui nage le plus longtemps sous l'eau, et autres futilités. Ah, quelles absurdes créatures ! Mais parfois, Bouton d'Or s'offusquait de ce que son époux connût un tel bonheur avec quelqu'un d'autre, et surtout avec un singe puant, si amusant qu'il fût avec ses figues. Elle commença même à s'imaginer que Plamuseau était une guenon et qu'elle était trompée. Sa meilleure amie d'ailleurs en convint. Comment un crocodile de sexe mâle pouvait-il être aussi heureux en compagnie d'un autre mâle? Il y avait sûrement du louche là-dessous. Voilà qui était beaucoup plus intéressant qu'une simple et banale amitié entre hommes. C'était un morceau de choix à se mettre sous la dent et à remâcher longuement, un fait prétend à exagération propre à déchaîner la jalousie. Bouton d'Or fut bientôt prise d'une irrépressible fureur, entretenue par ses continuelles conciliabules avec ses dames crocodiles. Quand vint la confrontation, ce fut rapide, comme le crocodile qui soudain s'élance la gueule grande ouverte hors de l'eau pour happer l'innocente Roussette imprudemment suspendue à une branche au-dessus du fleuve. « Ton ami Plamuseau ne peut être ce que tu prétends. C'est sûrement une guenon avec qui tu traînes et prends du bon temps.
Mais tu perds la tête !»
répliqua-t-il en la foudroyant du regard. Oh, il aurait aimé la fouetter un bon coup de sa redoutable queue, mais il se retint. Il savait que battre sa femme était dans sa tribu une tactique à courte vue qui, en général, finissait par coûter cher. « Eh bien, dis-moi un peu pourquoi tu aimes tant sa compagnie que tu rentres de plus en plus tard ?»«
Oh, je n'ai pas à en dire plus que je ne l'ai fait jusqu'ici. C'est mon ami. Un point, c'est tout. Et j'aime sa compagnie. Pas plus que la tienne. Autrement. »«
J'en crois pas un mot !» gronda Bouton d'Or.
Disons la vérité, s'il n'avait pas été aussi attaché au confort du foyer, son épouse, la vase, les roseaux de leur île, la société de ses enfants et son rôle de patriarche, il l'aurait congédié d'un simple signe de sa puissante tête, comme il aurait expulsé d'un souffle une mouche qui se serait aventurée dans un de ses naseaux. La paisible harmonie qui aurait pu régner durablement entre les deux amis était maintenant menacée par l'humeur rageuse de Bouton d'Or qui commença à faire du chantage à son époux afin d'obtenir l'absolue loyauté qu'elle exigeait de lui. Sensible comme il l'était, Brèche-Dent donna prise à ses attaques. S'il avait été plus combatif, il est probable qu'il aurait contre-attaqué. Il se rappelait qu'un jour qu'ils flânaient ensemble dans le fleuve, son père lui avait fait part de ses vues sur la question. « Rares sont les joies du célibat, lui avait-il dit, et nombreux les désagréments de la vie conjugale. » il resta 3 jours sans aller voir Plamuseau. Car Bouton d'Or, prétendant que cette situation la rendait malade, s'était alité et versait des torrents de larmes dont Brèche-Dent ne voyait pas de raison de mettre en doute la sincérité. Mais son épouse avait sa petite idée. Elle se débarrasserait de Plamuseau. Sans quoi... Poussée dans ses derniers retranchements, Brèche-Dent finit par lui demander ce qu'il devait faire. Alors, se redressant sur sa couche de roseau, elle fixa sur lui des yeux hagards. Elle n'avait rien mangé depuis plusieurs jours et avait une apparence encore plus effrayante qu'à l'ordinaire. « La seule chose qui puisse me guérir, hein ?»« La seule chose qui puisse me guérir, c'est le cœur d'un singe. »« Apporte-moi le cœur de Plamuseau. » Autrement, je mourrai ici même de mort lente. Rien d'autre ne saurait me sauver. Entends-tu? Le cœur d'un singe. Je ne mangerai que lorsque tu m'auras apporté ce petit cœur qui doit être la douceur même après avoir été si longtemps nourri au jus de figue.
Chers auditeurs, chères auditrices, voici comment se termine la première partie de cette aventure entre le singe Plamuseau et le crocodile Brèche-Dent. Si vous voulez connaître la suite, à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.